Alors Dieu est bon. Et tout le monde y va aller au paradis. Bah si. Bah si. Pourtant, c'est tout ce que tout le monde dit ça. Tout le monde va aller au paradis. Ça, c'est pas bien. Il faut le mettre en entier. Il faut débuter le... Vas-y. Ouais. Alors, je disais tout le monde allait au paradis. Vous êtes sûr? Ah. Donc, je peux recommencer. Je me suis trompé, alors. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais moi, je crois en Jésus, moi. Je crois en Jésus. Je pratique moi, mais je crois. Est-ce que vous pensez sincèrement? Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est ça? Quiconque croit. Qu'est-ce que ça veut dire croire? Croire, ça veut dire je mets ma confiance en Jésus-Christ. Je donne ma vie à Jésus-Christ. Ce matin, j'ai eu à cœur de vous faire une prédication qui ne va pas vous plaire du tout. Notamment ceux qui n'ont pas l'assurance du salut. Je vais vous parler ce matin de la colère de Dieu. C'est bizarre, on ne le trouve pas dans la parole de Dieu. Non? On le trouve déjà où? Dans la Genèse. Et j'ai pris deux événements pour relater la colère de Dieu que l'humanité a subi. Le déluge. Le premier, c'est le déluge. Le monde était arrivé à une telle perversion qu'il est dit en Genèse 7, verset 12, vous le lisez normalement, « Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. » Le deuxième, c'est Sodome et Gomorre. En Genèse 18, 20, « Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru, et leur péché est énorme. » Là, la fin a été précipitée à cause de la perversion des humains. Mais comment c'est aujourd'hui? Comment est notre monde? Oh, il est parfait. Et puis, bon, la colère de Dieu, c'est pour dans plus tard. Attendez deux minutes. La parole nous alerte en Galates 6, verset 7. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Il incombe à chaque semeur, nous, n'importe qui, même les gens du dehors, de décider ce que sera sa récolte. Vous allez dans votre jardin, si vous plantez des pommes de terre, ne vous attendez pas à recueillir des poireaux. On est bien d'accord, ça fait rire, mais c'est la vérité du monde. Si une personne, par exemple, sème pour la chair, elle va recueillir, elle va moissonner les fruits de la chair, la GN. Si une personne sème pour l'esprit et travaille avec Jésus-Christ, d'accord? La plupart des gens travaillent pour Jésus-Christ. Mais la plupart du temps, Christ n'est même pas dans leur entreprise, parce que c'est leur moi qui travaille. Elle va moissonner quelque chose qui durera toujours. C'est la vie éternelle. Si je lis 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 et 10, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai » et pour atteindre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère de Dieu. Il y a un mot que je ne comprends pas très bien là-dedans. vous vous êtes convertis à Dieu. Qui est converti dans cette salle ? La question qu'on doit se poser quand je dis ça, c'est pas parce qu'on a fait le baptême, je vous arrête tout de suite. C'est pas pour ça. Est-ce que j'ai l'assurance de mon salut ce matin ? Posez-vous la question, est-ce que je me sens en sécurité dans la présence de Dieu ? Vous savez, comme ces gens qui s'approchaient de la montagne et qui tremblaient, est-ce que je tremble quand je suis devant l'Éternel, quand j'ouvre ma parole ? Vous savez que c'est un attribut de Dieu, la colère. Et c'est fondamental de comprendre la colère de Dieu. On prend plein de versets dans la Bible qui nous font du bien. Ça nous fait du bien, ça nous rassure. Oui, j'ai pris le baptême. Oui, Jésus-Christ est mort pour mes péchés, tout va très bien. Mais on oublie le mot conversion. Je suis converti à qui ce matin ? Converti, ça veut dire que ma vie a changé. Ça veut dire que le Pascal qui était hier n'est plus le Pascal d'aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas dans ma vie ce matin ? Et je ne parle pas du péché qui peut encore nous arriver, où là, effectivement, on va vers Jésus et il est assez grand pour nous pardonner. Mais je parle, est-ce qu'il y a eu ce commencement qu'on trouve en l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 ? Est-ce que j'ai eu ce commencement dans ma vie ? Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous épargner de sa colère. Il va nous juger. On doit comprendre, si vous préférez, à cet instant précis, ce que veut dire la nouvelle naissance. Ce que veut dire la conversion. Si je viens ici pour m'asseoir tous les dimanches et sortir d'ici et dire « voilà, j'ai fait ma béa, je suis chrétien », vous allez subir la colère de Dieu. C'est clair. Si je dis autre chose, je suis anathème. La nouvelle naissance consiste à ne plus exister pour nous-mêmes. Il n'y a plus de moi, il n'y a plus d'ego. Les gens devant nous sont supérieurs à nous. Et on va le voir tout à l'heure. On ne retient pas la vérité captive. Parce qu'on témoigne de Jésus-Christ, même sans parler. C'est l'importance d'avoir sa vie changée. La colère de Dieu, elle peut pas être assimilée à la colère humaine, qui est associée à des crises d'hystérie, des manques de maîtrise de soi. Le chambard qu'on peut faire, l'animosité. Il n'y a rien de tout ça dans la colère de Dieu. Parce que si on parle ainsi de la colère de Dieu, on donne une image de Dieu qui est complètement défaillante, qui est tronquée. On parle du Saint des Saints d'une façon légère, en faisant de lui un homme, avec des réactions d'homme. Et on est très loin de ce qu'est la colère de Dieu, même en ayant dit cela. La colère de Dieu est une saine réaction. Ce n'est pas une réaction suite à, vous savez, des causes à effet pour le produit d'un univers moral, c'est-à-dire on doit suivre des règles. Jésus est venu accomplir la loi. On n'a plus de règles à suivre. Et quand je dis ça, je me comprends. C'est-à-dire que la règle, elle est en nous. C'est Christ lui-même. La vérité, elle est en nous. Donc on n'a plus besoin de suivre des choses écrites, puisqu'il a écrit la loi sur notre cœur. C'est là la conversion. C'est là où on prend racine en lui. L'attitude de Dieu est constante. face au péché, il ne change pas d'un iota. Il a en horreur le péché. Et cette attitude que Dieu aura, c'est sa colère. Dieu a en horreur le mal et le péché. Romains chapitre 1, versets 18 à 20. Alors écoutez bien, parce qu'il y a quelque chose de précis qu'il faudra relever pour la suite. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. On en a déjà parlé. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans son ouvrage. Ils sont donc inexcusables. On va revenir sur ce verset plus tard. Et peut-être qu'avec ce, même avec ces versets-là, on n'a toujours pas compris ce qu'était réellement la colère de Dieu. Eh bien, regardez la parole, ce que nous dit la parole. On va voir ici quelque chose qu'on peut trouver dans nos églises. Vous savez, la personne qui vient tous les dimanches et qui se croit sainte. Romains 2, chapitre 1 à 8. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu n'échapperas pas au jugement de Dieu ? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que dans la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Le contexte. Ici, on parle de certains païens qui avaient une vie, je vais dire, à peu près bien réglée, selon eux. Vous savez, ils avaient une éthique, ils avaient une conduite morale. On en connaît dans notre famille des gens qui ne sont pas à Christ, mais qui vraiment ont un comportement de chrétien. En fin de compte, il condamnait ces gens-là, la corruption morale qu'il y avait autour d'eux. Il a condamné. Et ensuite, vous aviez les juifs qui, eux, avaient la loi, qui avaient une prestance, qui avaient un contraste avec tous les gens du dehors. C'était une image, on le sait bien, quand on lit la parole de Dieu, on le sait bien, c'était une image. Il condamnait également tous les païens qui les entouraient. À Paul, il les a remis en place. Parce que ces deux groupes de moralistes, là, ils pouvaient certainement conclure que eux échapperaient à la colère de Dieu. Vous voyez ? On est tellement bien. Vous savez, on ne fait pas ces choses-là. Et Paul leur dit, mais en fin de compte, vous êtes aussi bien condamnés que ceux du dehors, hein, parce que vous faites les mêmes choses. Alors imaginez le coup de massue que ça a opéré en eux. Paul leur disait simplement que il n'y a eu aucun changement dans leur vie. Vous êtes pareil. Montrez-moi vos œuvres et je vais vous montrer la foi. Il n'y a rien qui a changé. Ils sont exactement les mêmes et ils ne valaient pas mieux que les autres. Est-ce qu'il en est de même pour nous aujourd'hui ? La norme divine, vous avez bien lu ce qui était marqué, la norme divine est la vérité. Et Dieu est appelé le Dieu de vérité. En Psaume 31,6, je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. La vérité absolue et infinie est indéniablement un des attributs essentiels de Dieu. Lorsque Dieu juge selon sa vérité, personne ne peut y échapper. Personne. Le jugement de Dieu est impartial. Parce qu'il juge selon sa vérité. Et à ce moment-là, on devient inexcusable. En Romains chapitre 1, verset 2. Et de ce fait, on ne peut échapper à la justice de Dieu. Alors pourquoi Dieu n'exécute pas immédiatement son châtiment sur l'humanité pécheresse? Dieu manifeste au contraire ses richesses de bonté, de patience et de longanimité. C'est-à-dire il ralentit le moment du jugement. C'est parce que Dieu veut amener l'humanité à la repentance. Est-ce que j'ai tout dit quand j'ai dit ça? Pourquoi alors les hommes ignorent les intentions de Dieu? Pourquoi ils ignorent sa bonté? Est-ce que nous, on ignore ces choses-là? C'est simplement à cause de leur endurcissement, la dureté de leur cœur. Vous savez, en grec, c'est sclérototéta. Sclérotéta, pardon. Vous savez ce qu'on a dit en français? Sclérose. Ça veut tout dire. Vous prenez un membre qui est sclérosé, vous allez voir ce que ça fait. Donc la colère de Dieu s'accumule contre le péché des hommes. Il est en train de remplir un grand réservoir de colère. Elle va être déversée le jour de son juste jugement. Vous lirez ça en Apocalypse. Et ce jour-là, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Ben, je vais vous le lire d'ailleurs, Apocalypse 20, verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ça change tout, hein? Et là, je parle aux gens qui n'ont pas connu cette nouvelle naissance. Je ne parle pas aux chrétiens, je veux dire, qui ont vraiment connu cette nouvelle naissance. Je parle vraiment à ceux qui ont une image de chrétien. Dieu va accorder la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent. Alors regardez, on a lu le verset, regardez en haut présent ce que ça donne, continue de chercher. Vous voyez, dans le verset c'est marqué « cherche », mais en fin de compte ça veut dire « continue de chercher l'honneur, la gloire et l'immortalité ». Et pardon, et l'immortalité, ça change tout quand même, hein. L'honneur, la gloire et l'immortalité. Continue de chercher. C'est pas parce qu'on a eu le baptême qu'on est sauvé. C'est simplement qu'on rend témoignage, oui, aujourd'hui, je fais l'engagement de suivre Jésus-Christ parce que je le reconnais comme mon sauveur et mon Seigneur. C'est ça le baptême. Et il y a beaucoup de gens qui s'assoient à partir de ce moment-là. Et leur vie ne change pas. L'irritation et la colère sera le lot de ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles ou continuent de désobéir à la vérité et obéissent, continuent d'obéir à l'injustice. Maintenant, on sait pourquoi la colère de Dieu l'amène à un juste jugement. tous ceux qui ne seront pas trouvés en Christ seront jugés. Mais ça nous montre quand même quelque chose, c'est qu'on manque d'apprécier. On oublie souvent à quel point Dieu a en horreur le mal, a en horreur le péché. Et ce qu'il veut, c'est juger ces choses. Et c'est pour ça que parfois on le commet délibérément. C'est pour ça qu'au verset 20, il est dit « Ils sont donc inexcusables ». Jean 3, versets 18 et 19. « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Est-ce qu'aujourd'hui je continue à pécher? Ou est-ce que je pêche et je suis sauvé par grâce? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? On ne se moque pas de Dieu, j'ai dit au départ. Dieu s'en souviendra. Quand tout à l'heure je vais aborder le verset qui dit qu'on retient la vérité captive, c'est en ce sens. L'Éternel est le juste juge qui condamne le péché. Essayez de lui expliquer quelque chose. De justifier le péché dans votre vie. Essayez. Vous allez avoir du mal. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui meurt d'une hémorragie alors qu'il a tous les ustensiles à côté pour arrêter l'hémorragie. Là, l'image. Vous trouvez la personne morte, alors ben, je ne comprends pas, pourtant il suffisait juste de mettre le garrot et ceci, cela. On a Jésus-Christ. Pourquoi on continue? 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 8 et 10. « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Car notre témoignage auprès de vous a été cru. » On devrait aspirer justement à ce que Jésus revienne. Est-ce qu'on aspire à ce que Jésus revienne? Pas maintenant, parce que je ne suis pas encore prêt. Alors le premier point, vous voyez, c'était que l'intro là. Le premier point, pourquoi Dieu est-il en colère contre nous? On revient au premier verset, je ne sais pas si tu peux le remettre. Non, je vais le lire. 1, verset 18. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » La colère de Dieu se révélera du ciel. C'est pas ce qui est marqué. C'est au présent. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça veut dire que la colère de Dieu se révèle aujourd'hui. Ben, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Dieu est en colère contre les hommes qui retiennent la vérité captive. On a connu la vérité. On sait que Dieu existe. Même ceux qui vont par l'église, même ceux qui... Regardez la magnificence des arbres, la magnificence de tout ce qui nous entoure, la complexité du corps humain. Tout ça nous montre que Dieu existe. Et nous, chrétiens qui avons connu la vérité, on la retient captive. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dire qu'on détourne la vérité de Dieu. par notre comportement, par tout ce qu'on est aujourd'hui. Peut-être parce qu'on n'est pas du tout converti. Et on dit aux gens, voilà, je suis chrétien. Vous inquiétez pas, je prêche cette parole, mais je me prêche à moi aussi. Hein. Est-ce qu'on est dans la vérité de Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'on proclame la vérité de Dieu aujourd'hui? Est-ce que notre vie respire la vérité de Dieu? Il ne suffit pas de dire « je crois ». Ah, je crois en Jésus-Christ. Il faut le vivre et le démontrer au travers de la nouvelle naissance. Si vous connaissez la nouvelle naissance, ça veut dire que vous avez connu ce commencement. Voici, je fais toute chose nouvelle. Il est impossible que les liens d'hier soient encore les liens d'aujourd'hui. Parce que Christ a tout accompli à la croix. Vous avez une tare familiale, c'est faux. C'est coupé. Parce que Christ est mort pour ça. Si on ne s'approprie pas la mort de Jésus-Christ et la résurrection, il est impossible de naître de nouveau. On va bricoler quelque chose, une image, un bon pharisien de base qui va nous citer des versets alors que ça reste que dans sa tête et pas sur son cœur. Les hommes ont vu la vérité. Ils n'ont pas témoigné de la présence de Christ. Et quand je dis témoigner, c'est témoigner naturellement. C'est pas le blabla. C'est naturellement la vérité de Christ. Refusant de pratiquer la vérité, mais surtout de s'y soumettre, parce que ça ne convient pas à mes pensées. Parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui est marqué dans la Bible. Ben, si tu n'es pas d'accord, c'est que tu es en train de suivre le monde. Parce que la vérité de Dieu est vérité. Ce que Dieu déclare vrai, c'est la vérité. Et la colère de Dieu tombera sur ceux qui ont dit « non, je refuse cette vérité » et qui auront bafoué la vérité de Dieu. Peut-être que on se dit « c'est pas pour moi ce matin ». Je ne parle pas de la prédication, mais Dieu, c'est peut-être pas pour moi ce matin. D'autres que j'ai connus et qu'on connaît, c'est « j'ai pas le temps ». J'ai tellement de choses à faire. D'autres, c'est qu'ils aiment bien vivre dans ce monde, même s'il y a du mal, le mal est là, on est confortable. Je ne suis pas pire que les autres. Mais attention, parce que la Bible ne nous caresse absolument pas dans le sens du poil. Et c'est là où je dis souvent, on a ces petits versets, vous savez, favoris, qui nous font du bien. Vous êtes sauvés par grâce. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Es-tu en Jésus-Christ? C'est ça qu'il faut se poser. Mais quand on médite la parole, c'est « mais est-ce que je suis en Jésus-Christ ?» Parce que ce verset restera toujours là. Il est la vérité de Dieu. Mais est-ce que je suis en Jésus-Christ? 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est une vérité. Alors si je me retrouve là-dedans, je vais subir la colère de Dieu. Beaucoup ne souhaitent pas connaître Dieu. parce que ça ne les arrange pas. Parce que comme je viens de lire ce verset, ils vont se sentir jugés. Alors, si je ne le connais pas, il ne va rien m'arriver. Vous savez, si je ne croise pas le gendarme, je ne vais pas prendre de PV. Maintenant, il y a des caméras. Tant pis pour vous. Il y a beaucoup qui ne souhaitent pas connaître Dieu alors que les preuves de son existence sont légion. Et ils sont inexcusables de ce fait. En Romains, chapitre 1, 19 et 20, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » L'homme vient du poisson. Ah, il ne descend pas du singe. Les arbres étaient trop hauts, là. Mais non, vous comprenez bien la bêtise humaine. Il y a les évidences de Dieu dans ce monde. L'intelligence humaine, après vous, c'est l'homme qui s'est rendu intelligent au cours des siècles. Mais non. Mais non. C'est Dieu qui a permis à l'homme de s'ouvrir sur telle et telle faculté. Quand on voit Albert Einstein, comment il a fait la loi de la relativité, lisez un peu, mais c'est fantastique. Comment on peut se dire qu'un être humain puisse sortir cette chose-là? Et il était chrétien, Albert Einstein. C'est lui qui parle du doigt de Dieu dans l'univers. On pirate tous la vérité. On la pirate tous, parce que ça nous arrange. Parce qu'elle met en danger notre indépendance, notre sécurité, avec un petit S, notre petite sécurité de chrétien. On pirate la vérité, on dit des choses qui nous arrangent, on oublie les choses qui sont graves. Et parfois même, on pirate la vérité pour notre sécurité terrestre, parce qu'on ne veut pas être persécuté. Parce qu'on ne veut pas perdre son emploi, parce qu'on ne veut pas perdre ses amis, parce qu'on ne veut pas perdre sa famille. Alors on se bricole un petit monde à nous, en ayant cette petite vérité de Dieu, les versets qui nous arrangent. On bricole un évangile, on arrache les pages de notre Bible, ceux qui nous condamnent. Est-ce que c'est ça ce matin dans notre cœur? Et bien-aimé. C'est une question qu'il faut se poser. Vous savez, lorsque le jugement de Dieu viendra, il sera trop tard pour se poser les questions. Il sera trop tard pour remettre sa vie dans le bon sens. C'est sûr que si ce matin je faisais un appel, je disais, vous venez ici, vous déclarez, voilà, oui, moi je me retrouve là-dedans. Waouh ! Le moi, il prendra un sacré coup. Et pourtant, on est censé déjà l'avoir fait. Avoir eu cette repentance. Et peut-être qu'aujourd'hui, on croit que Dieu se cache et Dieu nous évite. Comme ça, ça nous rassure. Voilà. Je ne suis pas embêté parce que Dieu m'évite. Si vous n'êtes pas embêté, c'est là où il faut commencer à vous poser des questions. En fin de compte, c'est nous qui l'évitons. C'est nous qui refusons sa vérité. C'est nous qui refusons d'être embêtés par les paroles véritables qui sont prononcées dans la parole de Dieu. Romains 1, 21, « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. » On en a parlé ce matin. Rendre grâce à l'Éternel, louer l'Éternel. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Vous avez vu qu'il n'est pas dit « ils ont plongé leur cœur dans les ténèbres ». C'est leur cœur qui a été plongé. Dieu les a laissés. Et c'est le point suivant, le deuxième point. Comment se manifeste cette colère ? Vous avez bien vu le temps qui était employé tout à l'heure ? Se révèle au présent. Elle se révèle aujourd'hui, la colère de Dieu. Vous allez me dire, ben je ne l'ai pas vue. Eh bien si, elle se révèle. Elle est active aujourd'hui et en parfaite activation. Regardez simplement l'état du monde aujourd'hui. Comment il est le monde ? Il va très bien. On a mis en place des choses épouvantables. Tout va très bien. Tout le monde est content. L'égalité pour tous. La première chose, la colère de Dieu commence, écoutez bien ce que je dis, comprenez bien ce que je vais vous dire, commence par un abandon à nous-mêmes. Ça ne commence pas par un abandon de nous-mêmes à Dieu, mais ça commence par un abandon à nous-mêmes, à nos pensées, à notre moi, à notre ego. Et on dit à Dieu, ben, je veux être maître de mon existence, je veux être maître de mon corps, je fais ce que je veux de mon corps. Ah ben Dieu, il dit, ok, tu veux être le patron, sois le patron. Et il abandonne. Et depuis qu'il a fait ça, tout va très bien sur Terre. Tout va très bien. On nous prédit 1 mètre d'eau en plus. Voyez, donc ça veut dire que toutes les villes côtières vont être inondées. 1 mètre d'eau d'ici 2050. 2050, c'est demain. Hein. Ok ? En fait, Dieu nous laisse vivre comme bon nous semble. C'est exactement ce qui s'est passé du temps de Noé. Les gens se mariaient. Il faisait la fête, il faisait tout. Et un jour, boum, Dieu a décidé d'arracher la page et de tout recommencer. Et la colère de Dieu s'est manifestée. Mais Dieu est patient, il est surtout lent à la colère. La question qu'on doit se poser, c'est jusqu'à quand ? Parce qu'un jour, il va venir pour refermer le livre. Le clap de fin. Romains 1, chapitre 24 à 28. « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. » Vous voyez, quand je vous parle de la vérité, je vous parle de la vérité de la parole. Écoutez bien ce qui va être dit maintenant et pensez au monde actuel. « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. » Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? La colère de Dieu est en route. Aujourd'hui même, voyez, rien qu'avec ce verset, on démontre que Dieu laisse faire l'homme. Et il explique exactement ce que l'homme va faire. On vient de le lire. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les conséquences, l'humanité se dégrade complètement. Et le verset suivant nous donne l'image exact du monde actuel. Romains chapitre 1, verset 29 à 32. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, c'est facile, on a effacé la pensée de Dieu aujourd'hui. D'accord ? Dieu les a livrés à leurs sens réprouvés pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Est-ce qu'on lit souvent ce verset-là? Sincèrement. Est-ce qu'on lit souvent? Est-ce que ça ne vous fait pas réfléchir sur la colère de Dieu qui est en route? Si ça vous fait réfléchir, vous allez étudier l'Apocalypse et vous allez voir les fléaux. Vous allez voir la puissance de la colère de Dieu. Il y a des gens qui vont courir sous les montagnes et demander aux montagnes de tomber sur eux pour éviter la colère de Dieu. On s'imagine un peu ce que c'est. Vous imaginez? Alors que ceux qui sont en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, j'ai pas dit ceux qui ont tutoyer Jésus-Christ, si vous voyez ce que je veux dire, qui se seront approchés sans toucher le vêtement et être guéris. La colère de Dieu va atteindre son paroxysme au moment du jugement dernier. En Romains 2, versets 5 et 6, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Le châtiment de Dieu va être imparable. Et beaucoup disent, quand je serai devant lui, je m'expliquerai avec lui. Je les plains. Sincèrement, je les plains. Parce que même la parole nous dit que celui qui... Personne ne peut approcher l'Éternel. On meurt d'entrée. Si je vous le dis comme ça, bien sûr, ceux qui sont en Christ, c'est faux. Mais pour ceux qui ne sont pas en Christ, c'est vrai. Ils ne pourront jamais s'approcher de Dieu. Et si je terminais cette prédication comme ça, il manquerait quelque chose. Quelque chose qui est présent dans la parole de Dieu. Qui est présent, j'espère, ce matin dans vos vies. Parce que ce que j'ai dépeint aujourd'hui, avant, c'est ce qui va arriver à ceux qui ne sont pas trouvés en Jésus-Christ. Je parle bien de ceux qui sont nés de nouveau. Nés de nouveau, qui ont connu un nouveau commencement, une nouvelle vie. Ceux qui étaient avant n'existent plus dans nos vies et c'est les choses nouvelles qui sont mises dans notre cœur. Je n'ai pas parlé à ceux-là. J'ai parlé à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui se sont bricolés un évangile qui les arrange. Ceux qui viennent le dimanche pour donner une belle image. Je suis désolé de parler comme ça. Mais souvent, on est alerté dans nos vies. On est alerté sur la gravité de la parole de Dieu. Est-ce qu'on en prend garde? Est-ce qu'on fait attention ou est-ce qu'on continue notre petite vie en disant « Dieu est bon, il y a la grâce de Dieu ». La grâce n'intervient que si on tourne les yeux vers Jésus-Christ. Et c'est le dernier point. Comment échapper à la colère de Dieu? Dieu n'en est pas resté là, heureusement. Le marteau de sa colère n'est pas retombé définitivement, heureusement. Heureusement. L'humanité sans Dieu est tellement perdue aujourd'hui, tellement convaincue de péché, il suffit de la regarder vivre. Tout ce qui était bien est devenu mal. Tout ce qui est mal est devenu bien. Et ils vont se retrouver un jour la bouche fermée devant le jugement de Dieu. En Romains, chapitre 3, verset 19, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, et elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » C'est-à-dire que on ne pourra rien dire. On ne pourra absolument rien dire. Ainsi, comme dit Romains chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Encore une vérité. Dieu a offert un moyen échappatoire à son jugement, à cette colère. On le sait, on le connaît. Ça a été le tournant de l'histoire, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a été choisi par Dieu, ok, qui est venu sur terre. Quand je dis choisi, c'est Dieu lui-même qui est venu sur terre. Il s'est incarné. Mais c'est une victime choisie par Dieu, une victime expiatoire. En fait, compte, c'est un sacrifice d'expiation que Jésus a fait sur la croix. Il a détourné la colère de Dieu sur lui. Est-ce qu'on en a conscience quand même? Quand Dieu a abandonné Jésus-Christ sur la croix, c'était juste le moment où tous les péchés du monde étaient sur lui. En fait, quand il n'a jamais abandonné. Mais quand Jésus a crié « Pourquoi m'as-tu abandonné ?», c'était à un saint instant précis que Jésus avait tous les péchés du monde sur lui. Et ainsi, il a détourné la colère de Dieu. Donc, ça suppose que la colère de Dieu à l'encontre du péché est énorme. Mais c'est surtout qu'elle engage notre responsabilité. Si on est encore pécheur aujourd'hui, c'est notre responsabilité. Paul, en Éphésiens, nous dit, chapitre 2, verset 3, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Quand il dit « enfants de colère », enfant à subir la colère de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Également en Romains 3, versets 25 et 26, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. C'est là où c'est important, celui qui a la foi en Jésus-Christ. C'est pas « je crois, oui, bon, je crois, oui, je crois. Mes parents étaient croyants, moi je crois, mais j'ai pas le temps, je suis trop occupé, je crois. » C'est pas ça du tout qui est dit. C'est absolument pas ça qui est dit. Croire, c'est, je l'ai déjà dit, c'est « oui, je mets ma confiance en ce Jésus. Je sais qu'il est mort pour moi. Je sais que son sang a été versé pour moi. Je sais qu'il a pris sur lui la colère de Dieu qui m'était destinée. Alors aujourd'hui, j'obéis à la vérité. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, j'obéis à la vérité. Aujourd'hui, je garde les yeux fixés sur la vérité. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir avec les simulacres de chrétienté. Ça n'a plus rien à voir. On entre dans une sphère peut-être qu'on n'a jamais connue. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous y invite par son Fils Jésus-Christ. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas bricoler son salut. C'est impossible. Si on commence à bricoler son salut, on est sûr de subir la colère de Dieu. Mais si on s'abandonne en Jésus-Christ, c'est ce que Dieu demande ce matin. Abandonne-toi en moi. Abandonne-toi. Épouse la vérité que je t'ai mise devant les yeux. Épouse Jésus-Christ. Si on met notre foi en Jésus-Christ, si on le confesse nos péchés, Dieu est juste et bon. Vous voyez, ça ne suffit pas de dire Dieu est bon, mais Dieu est juste et bon. Il est assez juste et assez bon, assez miséricordieux pour nous pardonner, pour que la colère soit détournée de nous. En Romains chapitre 5, verset 9, « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère ?» C'est Christ qui nous sauve de la colère de Dieu. En Romains 8, 1, « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Toujours pareil, bien lire ce verset, « Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Est-ce qu'on est en Jésus-Christ ce matin? La conclusion, la colère de Dieu est une perfection de Dieu. C'est vrai, quand on dit ça, on a l'impression que... Mais non, c'est une perfection de Dieu. Vous savez, je vous ai parlé du monde actuel. Dieu est en train de faire le tri. Vous voyez? Il sépare les boucs et les brebis. Aujourd'hui, Dieu est en train de faire le tri. Il y a des gens qui sont jugés, déjà maintenant, pour la géhenne, et d'autres pour la vie éternelle. Déjà maintenant, il fait le tri. Il a laissé le monde à l'humanité. C'est magnifique ce qu'elle en a fait, on le voit. Et bien, lui, il se pointe dedans, puis il écarte. Et juste au milieu, il y a un petit chemin, tout petit chemin, que celui qui veut bien le voir, va le voir. Celui qui refuse de le voir ne verra jamais ce petit chemin. C'est Jésus-Christ. Vous imaginez s'il avait mis un truc énorme devant les gens, il y a des gens qui auraient même payé pour avoir ça. Non, il a mis juste un petit chemin. Et c'est ce chemin qui nous emmène à la vie éternelle. Alors on doit méditer souvent sur la colère de Dieu. Premièrement, nos cœurs doivent être continuellement et pleinement pénétrés de la haine de Dieu pour le péché. C'est-à-dire qu'on doit comprendre que Dieu a en horreur et une haine pour le péché. Dans nos méditations quotidiennes, laissons de côté tous nos bouquins qui nous guident, prenons la parole de Dieu, une bonne concordance, étudions tout ce qui parle de la colère de Dieu. Et vous allez retrouver tous ces mots dedans. Deuxièmement, que nos âmes acquièrent une réelle crainte de Dieu, pas une peur de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui. La crainte, c'est la connaissance de Dieu. Je connais Dieu. Et parce que je connais Dieu, je sais qu'il est le Saint des Saints, je connais sa puissance, je le crains. Troisièmement, que nos âmes soient amenées à louer avec ferveur Jésus-Christ qui nous a délivrés de cette colère. On l'a dit ce matin, glorifions Jésus-Christ. Quatrièmement, pour moi, ce qui est plus important, que nous puissions aspirer tous les jours d'être en Christ afin que Dieu nous voie comme au travers de Christ. Parce que le jour du jugement dernier, quand il va nous regarder, la première image qu'il doit voir, c'est Jésus-Christ. Parce que selon ce qui est dit dans la nouvelle naissance, c'est Christ qui demeure en nous. Donc quand Dieu nous regarde, voyez, moi je ne vois plus José, je vois Jésus-Christ. C'est ça qui va détourner la colère de Dieu. ceux qui auront une image de chrétien, Dieu va les voir. Ils seront condamnés et jugés. N'oubliez jamais que, à la fin des temps, quand Christ va revenir, notre enveloppe corporelle va revenir et elle va être quoi ? Changée en un corps glorieux. Ça veut dire que, d'une façon imagée, Dieu va habiller son Fils. Il va nous habiller, en fin de compte, des mêmes habits que son Fils, de la même gloire. Est-ce qu'on en a conscience de ça ? Est-ce qu'on a conscience que, à la fin des temps, il va se passer des choses épouvantables pour ceux qui n'auront pas cru, pour ceux qui n'auront pas donné leur vie ? Alors que ceux qui auront donné leur vie, ceux qui auront souffert pour Jésus-Christ, pour le nom de Jésus-Christ, vont recevoir ce corps glorieux pour entrer dans la présence de Dieu. Et comme dit Apocalypse 21, Dieu sera au milieu de son peuple. Il habitera avec nous. Il sera au milieu de nous. Est-ce qu'on aspire à ces choses ? La colère de Dieu est essentielle pour la compréhension de notre croissance, vous savez, la croissance de la foi et surtout la compréhension de l'Évangile. Comprendre la colère de Dieu, ça ouvre beaucoup de choses dans notre tête. On comprend le sacrifice de Jésus. On comprend la nouvelle naissance. On comprend la colère de Dieu. On comprend le jugement de Dieu. On comprend l'impartialité de Dieu. Est-ce que vous pensez sincèrement que Dieu va laisser un pécheur invétéré accéder au royaume de Dieu? Là où tout est pur, c'est pas possible. Est-ce que vous croyez qu'il peut venir vivre là où il y a l'impureté dans nos cœurs? C'est pas possible. La repentance sert à quoi? À ce que Dieu vienne et enlève. Enlève. Et ensuite, lorsque la maison est nettoyée, il vient. C'est ça. J'aimerais terminer avec le dernier verset. Apocalypse chapitre 11, verset 18. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. C'est là le jugement de Dieu. Je vous laisse avec cette prédication. Vous en faites ce que vous voulez. Écoutez peut-être, méditez. Prenez un temps pour vous mettre devant le Seigneur, pour réfléchir à votre vie, même votre vie chrétienne. De penser, repenser, de passer, repasser la parole de Dieu sur votre cœur pour voir si vous êtes vrai devant l'Éternel. Ne tordez plus la vérité. La vérité est dite, obéissez. À partir du moment où on tord la vérité, le malin est en notre cœur. On va prier. Seigneur, c'est vrai que ce sont des paroles dures. C'est un sujet difficile à aborder. D'ailleurs, beaucoup d'églises refusent de prêcher la colère de Dieu. Mais Seigneur, on n'est pas ici pour être en tête du hit-parade. On n'est pas ici pour plaire. Plaire aux uns, plaire aux autres, mais on est ici pour te plaire, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon si parfois je ne suis pas dans la vérité, Seigneur. Mais Seigneur, que tu puisses faire que nous ayons chacun les yeux fixés sur Jésus-Christ, le juste rémunérateur de notre vie, Seigneur, qui s'est sacrifié pour nous, qui a détourné la colère de ton Père, Seigneur. Seigneur, tu sais ce qu'il y a dans nos cœurs. Seigneur, ne nous laisse pas partir de cette salle, Seigneur, en ayant fait la paix avec toi, Seigneur. Peut-être qu'il n'y a jamais eu de repentance dans nos vies. C'est le moment. Dans tes profondeurs, tu cries, c'est le moment. Venez à moi. Repentez-vous et croyez. Seigneur, tu appelles à une vie saine, à une vie sainte, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui va arriver pour nos vies. Ce que tu veux sauver, Seigneur, c'est ce qui va rester à la fin, pour cette vie éternelle. Tu ne veux pas sauver nos corps physiques, mais tu veux sauver l'âme. Seigneur, que nous puissions aujourd'hui mettre notre âme devant toi, Seigneur, et nous repentir. Suivre Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, dans le nom de Jésus. Amen.